Raphaël, est-ce que j'entends une foule scander Fire Fauci, le docteur Fauci qui est le conseiller là, en infectiologie de Donald Trump?
T'entends à perfection, Pat.
Donc, ils veulent que ce gars-là soit congédié.
Ça ressemble à ça. C'est la scène à laquelle on a assisté à Austin, au Texas, samedi. C'est une scène qui est très semblable à celle auquel on assiste depuis maintenant 5 jours. Ça a commencé, tout ce bal-là, au milieu de la semaine dernière, mercredi dernier. Tu as eu des manifestations au Michigan, en Ohio. Puis là, c'est en train de pulluler un petit peu partout aux États-Unis. Tu en as une présentement cet après-midi en Pennsylvanie. Bon. Ce qui se passe présentement, c'est qu'on a des centaines, c'est pas des centaines de milliers, ce sont des centaines de citoyens, donc d'un point de vue numérique, c'est pas énorme, mais d'un point de vue médiatique, c'est très, très, très gros les images qui sont en train d'être envoyées de gens qui en peuvent tout simplement plus des mesures de confinement et qui là prennent les moyens du bord pour essayer de manifester contre.
Qui se mettent en groupe pour manifester contre une maladie qui se répand dans des groupes.
T'as tout compris. Et quand tu dis se mettre en groupe, je présume pas que c'est tout le monde qui nous écoute qui a vu les images.
Mais faut le dire, j'ai vu des images de gars avec les guns. Le virus doit être terrifié.
Oui. Oui, non, parce qu'effectivement, il y a une partie des manifestants, effectivement, t'as eu ça au Michigan particulièrement la semaine dernière, qui arrivent avec leurs armes d'assaut aux manifestations. Donc, t'as ça et t'as aussi ce que tu viens d'amener juste avant, c'est-à-dire que dans plusieurs cas, les manifestants non seulement sortent en public, mais sont collés les uns sur les autres. Puis évidemment, là, on parle pas de gens qui sont limités à une famille. Là. Je veux dire, c'est des inconnus qui se collent par dizaines puis par centaines. Donc évidemment, ça fait bondir bien des gens. Quand je te parle d'images fortes, il n'y a pas juste ça. Je sais pas, tu parles des images que tu as vues des gens armés. Je sais pas si tu as vu les images de Denver au Colorado hier.
C'est un peu mêlé dans ma tête, là, toutes les manifs. Là. Texas aussi.
Oui, bien, celle de Denver est assez particulière parce que ce qu'on voyait, c'était des travailleurs de la santé qui étaient habillés en travailleurs de la santé.
Qui sont sortis.
Ça, tu as vu ça.
Oui, qui ont bloqué des manifestations, là, des manifestants qui étaient en voiture. Là.
Exactement. Tu sais, fait autrement dit, là, imaginez le climat social aux États-Unis après un mois. Ça fait un mois. Ça fait pas 3 ans. Imagine à quoi ça va ressembler dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, si ça continue comme ça. Puis là, on se parle de division.
Mais Raph, on sait qui a alimenté là, au cours des derniers jours toutes ces manifestations-là, puis qui a dit « Hey, libérez le Michigan, puis libérez la Virginie », puis qui continue à jeter un doute là, sur
Donald
la façon
Trump.
Dont on traite ça. Ben oui, c'est
Donald
Trump.
Tu me demandes, Philippe, parce que c'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire que là, on se parle de division entre citoyens. Il faut réaliser aussi le rôle de la division entre les élus et entre les paliers de gouvernement aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Tu sais, tu parles de Donald Trump. Donald Trump est sorti, évidemment, contre plusieurs gouverneurs démocrates. Il faut dire qu'il y a un aspect partisan à toute cette affaire-là. Et certains de ces gouverneurs démocrates-là font aussi l'objet soit de poursuites judiciaires ou carrément d'efforts de désobéissance civile de la part d'élus de paliers gouvernementaux, leur étant inférieurs. Donc, exemple, au Wisconsin, on a le shérif, donc le numéro un de la police, d'un des plus importants comtés de l'État, qui a annoncé à la fin de la semaine dernière qu'il allait refuser de faire appliquer l'ordre du gouverneur de l'État, l'ordre de confinement. Le shérif est appuyé implicitement ou explicitement par le président des États-Unis. Fait que tu sais, c'est un petit peu, mettons ça dans le contexte canadien, c'est un petit peu comme si, par exemple, le premier ministre du Canada se liait à une municipalité québécoise, Montréal, Québec, Lévis, peu importe, contre le gouvernement du Québec. T'sais, c'est ça qu'on a présentement. Et encore une fois, je le rappelle, là, ça fait un mois. Ça fait juste un mois.
Eh boy, est-ce qu'il va congédier Fauci, tu penses?
Écoute, c'est comme si tu m'avais demandé est-ce qu'il va congédier Mueller. T'sais, on parle de Donald Trump. Est-ce que ça serait brillant de le faire? Je pense que poser la question, ça revient à y répondre. Est-ce que c'est impossible qu'il le fasse?
Mais en même temps, là, moi, je vais poser la question autrement. Fauci, là, qui travaille pour un président qui tweet « Libérez tel État, libérez tel État, libérez tel État », puis là, il y a des manifs qui arrivent. Moralement, à un moment donné, à quel point tu te dis « Je peux pas travailler pour un gars de même? »
C'est tellement une bonne question. C'est drôle parce que, je sais pas si tu te souviens de ça, Pat, on a eu cette discussion-là à l'extérieur des zones il y a quelques mois, tu sais, à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour la Maison-Blanche, pour le président activement, même en y étant complètement opposé personnellement, mais en se disant c'est comme un devoir civique de le faire. La bonne réponse, honnêtement, c'est que je le sais pas. Je le sais pas. Je pense que c'est du cas par cas. Tu peux poser la question au sujet de Fauci, tu peux poser la question au sujet de sa collègue, la docteure Birx. Je le sais pas. Est-ce que ces gens-là se disent que même si c'est extrêmement difficile, même s'ils veulent pas être associés à ce président-là, l'alternative serait encore pire parce que s'ils devaient quitter, qui sait qui les remplacerait?
Mais sans doute, son gendre.
Ouais.
Son gendre peut tout faire. OK, Raph, pendant que tu es là, Philippe veut te parler de football.
Oui, parce que je sais combien tu aimes la Ligue nationale de football.
Jamais, ça n'existe plus, Philippe.
Non, mais peut-être que ça va revenir un jour, on le souhaite tous. Et tu sais que, évidemment, c'est le repêchage jeudi soir. Hein? Ils tiennent la première ronde, puis par la suite, ça se poursuit. Et là, une des grandes traditions au repêchage au football américain, c'est de huer le commissaire. Un peu comme quand Gary Bettman au hockey remet la Coupe Stanley, il est tout le temps hué. Ben, le commissaire au football, quand il annonce le premier choix au repêchage, parce que c'est lui qui le fait sur une tribune devant le public, ben, il est tué. Mais là, cette année, gros changement, tout ça, confinement oblige. Roger Goodell, le commissaire de la Ligue, il va faire ça dans son sous-sol, chez lui. Il va avoir une caméra, puis là, il y a des téléphones, des équipes appellent, puis ils vont dire, bon, OK, au premier rang, on choisit tel joueur. Mais comment on peut le huer? Alors, Budweiser, qui est le commanditaire principal de la NFL, a fait le hashtag booing the commish, boo the commish, et là, à chaque fois que tu vas envoyer un bout de commish, ils vont $1 qui va s'ajouter à un fonds là, pour aider une bonne cause.
Mais attends,
la tradition va être préservée.
Et ça veut dire qu'on peut le faire à partir d'ici aussi?
Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire jusqu'à samedi prochain.
Merveilleux.
C'est topé à $500,000.
Merci, Raphaël. Merci, Philippe. On vous retrouve les deux demain. Et après la pause, on va parler à nos chroniqueurs de la troisième heure et on va aussi parler avec François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, sur le rôle de la Chine dans la pandémie.